Donc on va parler du scapulaire. Donc le titre c'était « Le scapulaire, ses richesses et son symbolisme ». Les richesses du scapulaire d'après son symbolisme. Ça sera surtout en deux parties. Une première partie qui est la plus courte. L'histoire donc, du scapulaire, pour avoir un peu une idée de quoi il s'agit. Puis dans la deuxième partie, qui sera la plus importante, et en tout cas la plus longue, la spiritualité du scapulaire. D'abord l'histoire. En fait, l'histoire du scapulaire remonte au livre de la Genèse. Donc, vous connaissez l'histoire. Adam et Ève ont péché. Ils étaient désobéissants. Et le bon Dieu tout de suite leur promet un sauveur. Et il leur promet, avec ce sauveur, une femme qui écrasera la tête du serpent avec son pied. Donc ce serpent qui a trompé une femme pour la faire tomber dans le péché, une autre femme va venir pour écraser la tête de ce serpent. Et on va voir justement dans l'histoire, dans ce qui suit. D'abord, sachez que ce texte, ce passage, c'est le fondement scripturaire du dogme de l'Immaculée Conception. Parce que Dieu a dit, j'ai mis une inimitié irréconciliable entre la femme et le serpent. C'est-à-dire, le démon n'a aucun part dans l'âme de la Sainte Vierge. Elle est toute pure, exempte de tout péché. Et c'est le fondement de l'Immaculée Conception. Et on va voir les liens justement entre le scapulaire et l'Immaculée Conception dans la suite. Et un autre détail un peu important pour cette conférence, c'est que tout de suite après, que fait notre Seigneur, le bon Dieu? Il donne à Adam et Ève des vêtements pour les couvrir. Pour les protéger contre les éléments et contre leur propre passion. Ensuite, on va avancer beaucoup dans l'histoire. C'est l'époque du royaume d'Israël, c'est-à-dire les Juifs qui se sont installés dans la terre promise, ils ont des rois, et à un moment, donc après les règnes glorieux de David et Salomon, le royaume se divise. Et dans le royaume du Nord, c'est une succession de mécréants, de très mauvais rois, et c'est à l'époque du roi Achab et sa femme, une espèce de sorcière, Jézabel, qui était idolâtre et qui entraînait le peuple à l'idolâtrie. Donc pour punir le royaume, Dieu envoie une sécheresse, c'est la famine, ça fait des années qu'il n'a pas plu. Donc Élie, le prophète Élie, parce que c'est l'époque aussi où les prophètes commencent à être envoyés par le bon Dieu pour préciser des détails sur cette femme qui va venir et son fils qui est le sauveur. Et Élie est un de ces prophètes. Il vient voir le roi Achab pour lui proposer un concours. Il dit, moi, de mon côté, je vais prier. De votre côté, vous rassemblez tous les prêtres païens que vous avez, les prophètes de Baal ou les prêtres de Baal. C'était leur dieu, c'est une idole. Donc, ils étaient 450 de l'autre côté, et Élie, tout seul, de l'autre côté. Chacun va dresser une autel, on va prier, et on va voir quel Dieu nous exauce et qui va nous envoyer la pluie. Donc, il dit, chacun aura un autel, on va prendre chacun un taureau, que les prêtres de Baal choisissent en premier, qu'ils prennent le taureau, qu'ils mettent du bois sur l'autel, pour brûler le taureau et pour faire un sacrifice pour leur Dieu. Et moi, je ferai la même chose pour mon Dieu. Et ils ont dit, bon, d'accord. Et il ajoute, juste un petit détail, on n'a pas le droit de mettre le feu nous-mêmes. C'est-à-dire, c'est à votre Dieu d'envoyer le feu, s'il veut vraiment accepter votre taureau en sacrifice. Donc, eux, ils passent la journée à crier, faire des incantations, à se tailler même avec des couteaux dans la poitrine, à crier. Puis vers midi, Élie se moque d'eux, il dit, mais criez plus fort, peut-être votre Dieu, il fait la sieste, il est en voyage. Et puis, alors, il s'éprise comme ça. Et Élie, il élève un petit autel avec 12 pierres, il fait creuser un fossé autour, il fait verser quatre gros vases d'eau dedans pour bien tremper l'autel et le tout autour. Deuxième fois, troisième fois, tout est trompé. Il invoque en une phrase le Seigneur d'Abraham, de Jacob, d'Isaac, d'Abraham, d'Isaac et Jacob, pardon, c'est dans cet ordre-là. Et puis tout de suite, le feu tombe du ciel, consume le taureau, le bois, l'autel, tout est sec, il ne reste même plus d'eau. Le peuple est comme ça, il voit qu'il n'y a pas photo entre Yahvé et puis Baal, et Élie profite de la ferveur et de l'étonnement du peuple pour leur dire, vite, saisissez les prêtres païens et massacrez-les. Donc, c'est un grand massacre, on tue tous les prêtres païens qui étaient là. Alors évidemment, Jézabel, qui avait, justement, c'était elle qui avait fait venir ces prêtres païens dans le pays, était furieuse, elle veut tuer Élie, et elle envoie des soldats. Élie s'enfuit sur le mont Carmel. C'est sur la côte occidentale de la Terre Promise. C'est une sorte de promontoire. On voit ça, si vous regardez sur une carte, on voit qu'il y a la côte comme ça, et puis ça fait une sorte de bosse comme ça. On peut voir la mer. Et il va là-haut pour prier. Et il attend. Pas un nuage dans le ciel. Mais il prie, il regarde, il voit arriver un tout petit nuage en forme de pied. Alors en fait, il faut savoir, le texte hébreu est extrêmement précis dans cet endroit. Il dit « kaf », en fait c'est le pied, mais c'est la partie du pied, la partie concave, le bas, la plante du pied. Donc, en fait, il voyait ce pied qui arrivait comme si c'était quelqu'un debout avec son... qui passait son pied pour écraser quelque chose. Un ami qui évidemment connaissait la parole de Dieu, il reconnaissait tout de suite ce pied qui écrasera, ce pied de la femme qui écrasera la tête du serpent. Il a dit, il va y avoir de la pluie. Et il a envoyé des messages disant, préparez-vous, il va y avoir de la pluie, la sécheresse est finie. Et effectivement, peu après, le ciel devient sombre et c'est la pluie et c'est la joie et la famine s'arrête. Plus tard, en fait, Élie va lui-même se recueillir souvent sur cette montagne et il va fonder des petites communautés dans les grottes et il y aura des moines, des espèces de moines qui vont prier sur le mont Carmel pour demander la venue du Messie. Il faut savoir que le signe un peu distinctif du pouvoir d'Élie, c'était son manteau, justement. On va retrouver des choses qui reviennent toujours en temps, l'idée de vêtements, de manteau, et puis l'Immaculée Conception. Donc en fait, son pouvoir était montré par son manteau. Il faisait des miracles avec son manteau, en touchant des choses pour sécher un ruisseau, pour passer, etc. Et quand il va bientôt mourir, bah, en fait, non, il n'est pas mort. Mais quand il allait bientôt quitter la terre, il choisit un successeur, c'est Élisée. Et comment est-ce qu'il investit Élisée de son nouveau rôle, de successeur d'Élie? Justement, investir, c'était vraiment le mot précis, parce qu'il lui donne son manteau. Il le revêt de son manteau. Il l'impose sur lui. Pour montrer que ça va être lui, son successeur. Et puis, quand il doit quitter, alors il reprend son manteau quand même, et il fait toujours des miracles avec. Et puis, je pense que vous connaissez l'histoire, Élie n'est pas mort, il est monté au ciel, il était enlevé dans un char de feu, avec des espèces de chars de feu tirés par des chevaux de feu qui sont descendus de la terre pour le prendre avec eux. Et Élisée était là, pour voir la scène, et il demande à Élie de lui laisser son esprit pour qu'il fasse les mêmes miracles que lui, qu'il fasse le même travail qu'Élie. Et qu'est-ce que Élie lui laisse en montant au ciel? Il laisse tomber son manteau. Et il confie son manteau à Élisée, qui tout de suite va faire des miracles avec. Voilà. Donc il y aura toujours une présence un peu sur le Mont Carmel. Bon, il y avait d'autres communautés de prophètes un peu partout dans la Terre Sainte, mais il y aura une présence plus ou moins constante. Alors, je ne prétends pas qu'il y avait toujours des moines qui vivaient sur cette montagne, mais il y avait quand les Juifs sont revenus en Terre Sainte, certainement il y en a qui se sont montés là-haut, parce qu'on sait qu'il y avait une présence jusqu'à la Pentecôte. Et c'était au moment de la Pentecôte où ces moines, quelques-uns, se sont descendus pour voir les apôtres, pour voir si c'était vraiment Jésus la Messie. Bon, j'ai trouvé ça je ne dis pas que c'est de l'évangile, hein, tout ça, mais c'est des traditions dans l'ordre de Mont Carmel. Il parle de ça. Et par contre, ce qu'on sait, c'est qu'après, il y avait une présence chrétienne sur le Mont Carmel. Bon, on suppose que c'était ses descendants de ceux qui étaient là dans l'Ancien Testament. Mais il y avait une présence jusqu'aux croisades. Donc, les chrétiens, quand ils sont venus en Terre Sainte, quand les Européens sont venus en Terre Sainte, ils ont retrouvé des moines sur le Mont Carmel. Et ces communautés florissaient jusqu'au moment où les chrétiens devaient, surtout les occidentaux, devaient fuir à cause des musulmans. Ils se sont installés en Europe, en France, en Angleterre. Et en fait, donc c'est les moines du Mont Carmel. Et leur supérieur général, Saint-Simon Stock, s'installe. Alors, on sait qu'il y avait un couvent à Valenciennes dès 1235. C'est dans un lieu qui s'appelle encore maintenant la Porte des Barrés. Parce qu'en fait, quand ils sont venus en Europe, ils avaient gardé leur habit oriental, avec des tuniques un peu bariolées, avec des raies de couleur. Et justement, les gens, ils les prenaient pas des fous, des gens un peu spéciaux. Et donc justement, cet endroit a gardé le nom d'après l'habit qu'ils portaient à ce moment-là. Et juste comme ils étaient un peu mal vus, il y avait des difficultés, même des gens qui entraient, il y avait des défections, l'ordre était en train de disparaître. Et Saint-Simon Stock, il priait la Sainte Vierge. Alors là, il se trouvait en Angleterre à ce moment-là. C'est en 1251. Et il voit la Sainte Vierge qui le rassure et elle lui montre un scapulaire. C'est la vision que vous connaissez sans doute. Souvent, on voit la Sainte Vierge présentant un scapulaire comme ça. C'était pas comme ça. C'était un scapulaire comme ça. Comme ça que celui que nous portons. Et elle dit: prenez cet habit-là, c'était marron, de couleur unie, mais ça passe pas mieux avec les gens. Je vais dire à vos moines que tous ceux quiconque meurt revêtu de cet habit sera sauvé. Il n'y aura pas en enfer. Ça peut encourager les gens quand même à entrer dans votre ordre pour recevoir cet habit. Et effectivement, il y a beaucoup de recrues, l'ordre de Mont Carmel devient florissant et s'est sauvé. L'ordre est sauvé. Et il n'y avait pas que les moines qui voulaient porter ce scapulaire. Évidemment, les fidèles qui entendaient parler de cette promesse, tous ceux qui mourront revêtus de ce scapulaire n'iront pas en enfer. Et ils voulaient aussi le porter, mais le problème c'est que oui, vous ne pouvez pas entrer au monastère. Donc, ils ont, je ne sais pas dans quel ordre ça s'est fait, est-ce que c'est les fidèles qui ont fait une demande à l'autorité ecclésiastique, est-ce que c'est les moines eux-mêmes, mais en tout cas, on a eu la permission de faire les scapulaires en miniature, comme ça, que les gens du monde, qui ne sont pas des religieux avec des vœux, pour qu'ils puissent porter ça chez eux sous le vêtement. C'est l'origine de la petite taille. Mais avant, c'était, et c'est encore, pour les moines du Mont Carmel et les sœurs, le scapulaire de cette taille-là, évidemment. C'est plus tard, alors justement, ce que je vais dire est très important, parce qu'il faut bien distinguer les choses. Les gens se trompent tout le temps sur ça. C'est sur la promesse qu'on appelle le privilège sabbatin. le privilège sabbatin, le sabbatin ça vient de sabbato, samedi, c'est la promesse, comme quoi, si vous mourrez avec le scapulaire, vous serez délivré du purgatoire le premier samedi après votre mort. La Sainte Vierge n'a pas parlé de ça. Elle n'a pas parlé de ça à Saint-Simon Stock. À Saint-Simon Stock, elle a donné une promesse extraordinaire qui est le fait d'éviter l'enfer si on meurt revêtu du scapulaire. Elle n'a pas dit revêtu du scapulaire et avec l'habitude de dire le chapelet tous les jours ou d'être fidèle à la chastité de votre devoir d'état, de votre état. Non, c'est en fait, ça vient après. La promesse de base du scapulaire, et il n'y a pas de condition. La seule condition, c'est de porter le scapulaire. Et si vous portez le scapulaire, et si vous mourrez avec, vous êtes sûr de ne pas aller en faire. C'est étonnant, moi j'en parlerai après, mais c'est plus tard, à peu près un siècle plus tard, que le pape Jean XXII a eu une vision lui-même de la Sainte Vierge. Alors il paraît que cette vision est un peu moins bien attestée. Il y a même quelques saints qui ont préféré ne pas parler de cette vision, mais en tout cas, il y a une tradition d'après laquelle le pape Jean XXII, au XIVe siècle, aurait eu une vision de la Très Sainte Vierge Marie qui, lui, a ajouté ça en disant donc, non seulement ceux qui portent le scapulaire seront sauvés de l'enfer, mais en plus, ils seront délivrés du purgatoire le premier samedi après leur mort, à condition, et là, pour le coup, il y a des conditions, alors à l'époque c'était dire le petit office de la Sainte Vierge tous les jours, maintenant c'est communier en chapelet quotidien, et si on reste fidèle à la chasteté de son état de vie, donc soit marié, soit célibataire, etc. Mais ça c'est quelque chose en plus, et il vaut mieux surtout concentrer sur la promesse essentielle de persévérance finale si on porte le scapulaire. Et laissez ça à la Sainte Vierge. Il ne faut pas trop se poser des questions. Est-ce que, mais qu'est-ce que je fais si je fais un péché et puis je ne peux pas me confesser, etc. La Sainte Vierge se débrouillera pour trouver pour les circonstances, pour arranger les choses. Alors, il faut que je me dépêche un tout petit peu. Je vais juste faire un petit épilogue sur l'histoire du scapulaire. À partir de ce moment-là, le scapulaire était très répandu, même les rois ont voulu être revêtus du scapulaire, très, très populaire parmi le peuple, jusqu'à la Révolution, et puis la critique moderne avec les Lumières, etc. Il y avait un refroidissement au 19e siècle. Et c'est là où on va voir une série de grandes apparitions de la Sainte Vierge qui va revenir comme cette femme qui écrase la tête du serpent avec son talon. La rue du Bac, vous connaissez la Madame Miraculeuse, où on voit qu'elle écrase la tête du serpent. En fait, nous, quand on voit une image de Sainte Vierge, on est presque surpris de ne pas voir le serpent sous ses pieds. Mais il faut savoir que dans l'iconographie chrétienne, c'est quelque chose d'assez récent. Au Moyen-Âge, on ne représentait pas la Sainte Vierge. C'est quelque chose qu'elle-même rappelle. À la rue du Bac, puis ensuite à Lourdes. La dernière apparition à Lourdes a lieu le 16 juillet, la fête de Notre-Dame du Mont-Carmel. Et Sainte Bernadette a dit que c'était la plus contemplative des apparitions. La Sainte Vierge n'a fait que sourire, elle n'a pas parlé. Et Sainte Bernadette dira, « Je ne voyais ni le gave ni les planches, je ne voyais qu'elle. » Jamais je ne l'avais vue aussi belle. Là, c'est un petit clin d'œil. Elle ne voit pas le scapulaire, mais c'était le jour de Notre-Dame du Mont-Carmel. Par contre, à Fatima, en 1917, dans le dernier jour des apparitions, quand la foule voit le miracle du soleil, les enfants voient des visions que eux voient. Ils voient la Sainte Famille, puis Notre-Dame des Sept Douleurs. Puis la dernière chose qu'il voit, c'est Notre-Dame du Mont-Carmel avec le scapulaire. Et là, si on ne peut plus clair, elle dit, mais prenez le scapulaire, elle est comme ça. Donc on voit ces liens entre le cœur immaculé de Marie et puis le Mont-Carmel. Alors avant de voir la spiritualité du scapulaire, quelques remarques sur ces liens entre les deux. Dès le début, Notre-Dame de Mont-Carmel est associée à l'Immaculée Conception. Parce qu'on l'a vu, c'est Élie qui a reconnu cette femme qui écrase la tête du serpent. Et qui est justement un passage qui est le fondement de l'Immaculée Conception. Elle voit, Élie voit, donc son pied, voilà, ça je dis, Notre-Dame de Mont-Carmel réapparaît dans l'histoire, dans une série d'apparitions grandioses révélant la puissance de l'Immaculée. D'abord par allusion, donc c'est l'image à la rue du Bac de cette femme qui écrase la tête du serpent. Ensuite, c'est par une concurrence de date à Lourdes, et puis explicitement à Fatima. Alors maintenant, la spiritualité du scapulaire. Première chose qu'il faut savoir, c'est que le scapulaire est ce qu'on appelle un sacramental. Il y a 7 sacrements institués par Jésus-Christ lui-même pour nous donner la grâce. Mais il y a aussi les sacramentaux qui sont innombrables, les chapelets, les crucifix, les scapulaires, les images pieuses, tout ça, les prières, tout ça, c'est des sacramentaux. Qu'est-ce que c'est qu'un sacramentaux? C'est la même chose que les sacrements, en fait, sauf que ils n'ont pas forcément été institués par notre Seigneur Jésus-Christ lui-même. C'est pas... Et elle ne marche pas ex opere operato, c'est-à-dire en donnant automatiquement la grâce. Mais il donne la grâce quand même, indépendamment de nous, grâce à une efficacité qui est donnée par l'Église, qui est Jésus continué sur la terre. En fait, il y a deux façons dont les sacramentaux donnent la grâce. C'est d'abord et principalement en vertu d'une efficacité spéciale qui leur est concédée par l'Église, qui leur donne un pouvoir de produire des grâces actuelles, comme la rémission des péchés, la grâce de réduire les peines dues aux péchés, notre purgatoire, éloigner les démons et obtenir les faveurs temporelles, comme la santé corporelle, par exemple. Et deuxièmement, c'est en vertu des dispositions du ministre qui donne le sacramental ou dans les dispositions de la personne qui le reçoit. Alors souvent, on ne retient que ça. On dit souvent, les sacrements donnent la grâce automatiquement et les sacramentaux, bah, ça dépend des dispositions de la personne. C'est vrai, ça dépend en partie des dispositions de la personne, mais il ne faut pas oublier que les sacramentaux ont un pouvoir donné par l'Église pour donner la grâce. Donc c'est pour ça qu'on peut donner on peut cacher un scapulaire vert dans la chambre d'un malade qui ne veut pas entendre parler d'un prêtre et ça obtient des grâces de conversion. On ne peut pas dire que ça dépendait des dispositions de cette malade, hein, ou ce malade, parce que lui, il n'avait pas du tout de bonnes dispositions. Voilà, on oublie souvent la première raison, alors que c'est la principale source de l'efficacité. Et c'est normal, nous avons besoin de choses matérielles. Nous ne sommes pas des anges, nous sommes corps et âme. Et c'est pour ça que le bon Dieu, que Jésus a institué les sacrements, avec de l'eau, du pain, du vin, de l'huile, les choses qu'on peut toucher, on a un corps. Si le bon Dieu nous a donné un corps, ce n'est pas pour rien. Et si vous ne donnez pas aux gens cet aspect corporel dans la religion, cet aspect incarné à notre religion, ils vont chercher ailleurs. Et c'est exactement ce qu'on voit aujourd'hui. Les gens qui courent après tout ce qui est nouvel âge, gourou, cristaux, qui donnent le pouvoir, des trucs comme ça. Donc, parce qu'on ne donne plus les vrais sacrements. Ils n'ont plus Donc, et les sacramenteurs, ça rentre dans la même ligne que ça. Donc, ce n'est pas quelque chose de superstitieux. Parce que ça, c'est notre objection. On dit, mais oui, mais vous dites que ça donne la grâce, mais c'est un objet, c'est la superstition. Non, parce qu'il y a une grande différence. Je ne sais pas si on fait ça en France, mais aux États-Unis, c'est une superstition de mettre un fer à cheval sur le linteau de la porte pour porter bonheur. C'est ridicule. Ça n'a aucun sens, aucune signification. Si vous demandez aux gens qu'est-ce que ça veut dire, ils ne savent pas, parce que ça n'a pas de sens. Par contre, la médaille miraculeuse est une véritable leçon de catéchisme en 1 cm². Vous avez plein de choses à dire sur le péché originel, l'intercession de la Sainte Vierge, puis le symbolisme, les 12 étoiles, puis les rayons, et toute une histoire, mais je ne vais pas faire une digression parce que déjà là, je suis un peu pressé. Mais il y a une signification. Et on va voir, le scapulaire, c'est pareil. C'est une, il y a une signification. Et s'il y a une signification derrière, ça veut dire que c'est une prière. C'est, on dit quelque chose avec. Vous savez, il y a diverses manières de prier. On peut prier en disant « Je vous salue Marie, pleine de grâce, priez pour moi maintenant et à l'heure de la mort, etc. » Là, on parle. On peut prier autrement aussi, juste en pensée. Voilà. On peut prier en geste. J'ai donné cet exemple hier à quelqu'un, mais vous, vous le faites tout le temps. Quand vous entrez dans une église et vous faites une génuflexion devant le tabernacle, vous ne dites, bah, c'est-à-dire, vous ne dites rien avec votre bouche, mais avec vos jambes, en fléchissant les genoux, vous dites, c'est comme si vous disiez tout haut, « Seigneur, je vous adore, vous êtes présent dans le tabernacle. » En fait, votre geste a une signification. Et on va voir le geste de mettre ça sur vous comme ça, ça a une signification. Et une signification très riche. Donc, le mettre, le porter, le baiser de temps en temps, c'est une manière de manifester notre consécration, notre appartenance à la Très Sainte Vierge Marie, et surtout, c'est une manière de concrétiser notre demande d'aide. C'est une prière que vous mettez, c'est comme si vous disiez tout haut, Sainte Vierge, protégez-moi. Soyez devant moi, derrière moi, protégez-moi de tout danger. C'est une prière continuelle, ne faites rien que de la porter. Voilà, donc pour résumer ça un peu, c'est un moyen, c'est à la fois le signe de notre consécration mariale et le moyen de renouveler cette consécration, de prier. Alors, quelle est la signification du scapulaire? Alors, le scapulaire, c'est un vêtement, vous voyez, c'est un vêtement qui couvre. Et on va voir d'abord, la signification de vêtement en général. Il faut savoir que le vêtement dans la Bible, a une importance capitale. C'est quelque chose qui revient très souvent. J'ai parlé tout à l'heure d'Adam et Ève. C'est la première chose que Dieu a fait après avoir promis un sauveur. Il leur donne des vêtements. Il y a l'histoire de Jacob et Ésaü, cette histoire assez mystérieuse où Jacob se fait passer pour son frère pour recevoir la bénédiction de son père en se revêtant des vêtements sacerdotaux de son frère. Joseph, tellement de choses à dire sur chacun de ces exemples. Le manteau, la tunique donnée à Joseph par son frère Jacob, son père Jacob, qui a ensuite été taché du sang que ses frères ont montré à son père pour dire qu'il est mort, etc. Il y a toute une signification derrière. Les prêtres, il y a des pages entières dans la Bible qui racontent comment on devait confectionner les vêtements des prêtres qui devaient faire des sacrifices à l'autel. Bon, dans l'histoire de Samson, il y a aussi l'importance du vêtement, c'est-à-dire le défi qu'il avait fait aux Philistins. Samuel aussi, j'ai parlé d'Élie. Et puis notre Seigneur parle souvent du vêtement dans le Nouveau Testament, dans ses paraboles. Dans la parabole du festin des noces, où à la fin, il y a un qui n'avait pas les vêtements qu'il fallait, et éjecté dehors. Le fils prodigue, quand il revient à la maison, il demande pardon. La première chose que son père fait, il fait venir sa tunique d'avant. Donc il enlève ses loques, il remet sa belle tunique qu'il avait avant. Parce qu'il a maintenant, il est rentré en grâce avec son père. Le parabole du bon samaritain, ce voyageur qui est dépouillé, on lui vole ses vêtements, et puis le bon samaritain lui redonne ses vêtements. D'autres. La tunique de notre Seigneur lui-même a une signification de riche. Elle était confectionnée d'un sol dans un coup, il n'y avait pas de suture, je parle dans la couture. Et dans l'Apocalypse aussi, on parle des saints qui sont sous l'autel, qui ont lavé leur tunique dans le sang de Jésus. Saint Paul qui dit qu'il faut nous revêtir de l'homme nouveau. En fait, déjà, ça nous donne un indice que le vêtement a une signification. Même Aristote a perçu cette importance du vêtement. Il le place dans les habitus, l'habit, dans les accidents, en fait, dans les catégories qui décrit l'être. Donc, en fait, c'est quelque chose qui peut carrément déterminer l'être. Donc, plus en détail. Le vêtement, comme c'est ce que Dieu a donné à Adam et Ève tout de suite après le péché, quand il leur a pardonné leur péché, c'est un rappel du péché original. En fait, le vêtement devient nécessaire à partir de la chute originale. Donc, rien que de voir quelqu'un qui porte les vêtements, c'est un rappel du péché original, en fait. C'est un rempart contre la concupiscence pour conserver la pudeur. Et c'est aussi une protection contre les éléments qui maintenant nous font mal. Dans le paradis terrestre, Adam et Ève n'avaient pas à craindre le froid, le chaud, la pluie, tout ça. Donc, le vêtement évoque la déchéance de l'homme et son besoin de la grâce. Au Moyen-Âge, les interprétations de la parabole du bon samaritain sont très intéressantes. En exploitant cette image de l'homme qui est dépouillé de ses vêtements et puis qui ensuite est revêtu, et qui est guéri et puis revêtu de beaux vêtements. Et donc, si le vêtement évoque notre déchéance, notre besoin de la grâce, elle évoque aussi en même temps la grâce retrouvée, comme le bon samaritain qui justement a retrouvé les vêtements, ou le fils prodigue qui revient à la maison et il est revêtu comme avant. Les saints dans l'Apocalypse qui lavent leur tunique qui devient toute blanche parce qu'elles sont lavées dans le sang de l'agneau. Bon, Saint Paul encore, revêtons le Christ. Donc, porter le scapulaire, c'est à la fois reconnaître notre besoin de la grâce et que toute grâce nous vient par Marie. Le vêtement est aussi un parure, un ornement, comme la grâce et les vertus qui embellissent notre âme. Le vêtement peut aussi être un signe extérieur d'appartenance. D'appartenance à une région. Autrefois, c'était très beau. Hein? En fait, chaque région, vous allez en Bretagne, vous voyez d'autres vêtements que si vous alliez en Provence. Une fois, j'ai fait la gaffe de féliciter parce qu'il y avait une institutrice qui avait mis une belle photo avec des filles qui étaient habillées en provençal. Et j'ai dit, c'était des beaux costumes bretons. Et non, non, c'était la Provence. Et alors moi, je ne connais pas la différence, mais je pense qu'autrefois, on reconnaissait bien la différence entre les régions, rien que grâce à ça. Et même parfois, si on allait quelque part, il fallait réfléchir à comment on s'habille, parce qu'on pouvait vraiment regarder comme quelqu'un de bizarre ou étrange si vous ne portiez pas le même costume régional que les autres. Donc, ce vêtement devient un signe de notre appartenance à la Sainte Vierge. Ça peut être aussi un signe d'appartenance à un corps de métier, donc un métier, une responsabilité, une fonction publique, comme l'uniforme des gendarmes, ou tous les métiers de robe, les magistrats, les avocats, les professeurs d'université dans les grandes cérémonies, robe cérémoniale, etc. Et quand le vêtement est un signe d'une fonction, c'est à la fois le signe, on peut signaler aux gens qu'on remplit cette fonction, mais aussi une aide pour se tenir dans cette fonction. Donc, je pense qu'un gendarme ou un militaire ne va pas se comporter pareil dans la rue, si c'est en uniforme ou en civil, dans sa vie privée. On peut se permettre certaines choses, je sais pas. C'est pareil pour les prêtres ou les religieux. Le fait de ton habit, ça nous rappelle voilà, une certaine façon de se comporter. Le vêtement aussi, et ça c'est peut-être le plus beau en fait, le vêtement évoque une dépendance, donc surtout par rapport aux enfants. Vêtir l'enfant fait partie des soins maternels. Après nourrir, vêtir, c'est l'office maternel par excellence. Et pour la Sainte Vierge, c'était justement la première chose qu'elle a fait avec notre Seigneur. Saint Luc le raconte, il dit qu'il signale qu'elle a revêtu tout de suite Jésus de l'ange. Comme ça. Et elle est sans doute la seule maman à pouvoir à avoir fait ça, parce que les autres mamans sont trop fatiguées et ont d'autres soucis en ce moment-là. Et surtout, la Sainte Vierge a revêtu Jésus de notre humanité. Donc c'est un niveau beaucoup plus profond et beaucoup plus essentiel. C'est grâce à la Sainte Vierge que Jésus a revêtu notre humanité et est devenu homme. Les soins maternels de la Vierge à l'égard de ceux qui lui sont dévoués sont représentés sous le symbole d'un vêtement. Souvent dans l'iconographie, je ne sais pas si vous connaissez ce qu'on appelle les mères de miséricorde. C'est un thème dans l'art religieux. Les mères de miséricorde, c'est la Sainte Vierge qui ouvre son manteau et qui a donc sous son manteau tout un groupe de personnes. C'est très connu pour nous, les Dominicains, parce qu'il y a Saint Dominique a vu la Sainte Vierge carrément comme ça dans le ciel. Il cherchait les Dominicains dans le ciel, il ne voyait pas, il se plaint à la Sainte Vierge ouvre son manteau, il dit « Ils sont là, sous mon manteau ». Mais nous ne sommes pas le seul ordre à avoir cette image, c'est assez répandu, les mères de miséricorde. Mais c'est la Sainte Vierge qui couvre ses fidèles de son manteau, en fait. Et on retrouve toujours cette idée. Et donc, surtout pour nous, les Dominicains et les Carmes, parce que nous sommes les deux ordres qui ont reçu des mains de la Sainte Vierge notre scapulaire. Parce que Simon Stock n'est pas le seul à avoir reçu la scapulaire de la Sainte Vierge. Bienheureux Reginald, dominicain aussi, nous a. C'est grâce à elle, par lui, que nous avons la scapulaire aussi. Et il y a une autre apparition dont je n'ai pas parlé, mais je vais en parler maintenant, c'est Notre-Dame de Guadeloupe. Et c'est très, très intéressant. Là, c'est pareil, c'est un manteau. Elle a voulu donner un symbole de sa protection maternelle avec un manteau. Elle dit à Juan Diego, « Ne suis-je pas ici, moi, votre mère? N'êtes-vous pas dans les plis de mon manteau, au creux de mes bras? Que vous faut-il de plus ?» Donc, on voit alors cette idée de manteau qui revient, mais alors, il faut savoir qu'il y a aussi, et ça c'est très peu connu, parce qu'en fait, on a découvert ça récemment, mais il y a un lien entre Notre-Dame de Guadeloupe et l'Immaculée Conception. Donc, quand l'évêque a demandé à Juan Diego donc le nom de la Vierge, il a dit son nom c'est Guadalupe. Il n'a pas dit Guadeloupe, il a dit Guadalupe. Guadalupe, pardon. Et l'évêque qui était espagnol, qui ne parlait pas indien, ne comprenait pas ce que ça voulait dire, parce que c'est une phrase dans le dialecte de Juan Diego et de ces gens-là. Mais lui, il était de l'Espagne, et près de chez lui, il y avait une sanctuaire qui s'appelait déjà Notre-Dame de Guadeloupe. Donc il a dit, ah, c'est Notre-Dame de Guadeloupe, ça ressemble. Donc c'est sans doute Juan Diego qui se trompe. Donc en fait, ça a été connu comme ça. Depuis, mais c'est vers la fin du siècle dernier, grâce à des études linguistiques, je pensais un peu à la mode aussi, on a essayé de ressusciter un peu la culture amérindienne, pour des mauvaises raisons, hein, mais en tout cas, ils ont fait des gros progrès dans les études linguistiques, ils connaissent un peu, ils peuvent parler les langues des Indiens là-bas, Et qu'est-ce que ça veut dire? Quat la soupe? Tenez-vous bien, ça veut dire celle qui écrase la tête du serpent. Et je n'invente pas, c'est vraiment ça. Et parce qu'il faut savoir que les gens là-bas, vous avez vu des images, peut-être des temples des Mayas. C'est un serpent ailé. C'était ça leur dieu qu'ils adoraient. C'était à lui qu'ils sacrifiaient des milliers de pauvres gens en arrachant les cœurs. Parfois, c'était littéralement des douzaines de milliers de gens pour les grandes fêtes. C'était un démon horrible. Et c'était un serpent. On voit donc dans les temples, c'est la tête du serpent qui dépasse un peu les murs des temples. Et il a des ailes sur la tête. Et non, donc, déjà, dans l'apparition de la Guadeloupe, il y a la Sainte Vierge qui se présente comme l'Immaculée. Alors, le vêtement peut aussi. Voilà, le vêtement nous protège et ça peut aller jusqu'à être une armure, une protection, non seulement contre les éléments, mais contre tout coup de coupure. Et le scapulaire, justement, a toujours été associé. Se présente presque toujours dans un contexte de lutte contre un ordre social opposé à Dieu, en sorte de guerre. Déjà avec Élie, qui se battait contre ce roi impie qui entraînait tout le peuple, toute la nation vers l'idolâtrie. Les apparitions à la rue du Bac et à Lourdes s'insèrent dans toute une lutte entre l'Église et la révolution, le laïcisme, le naturalisme qui niait la pêche originale, la franc-maçonnerie, tout ça c'est au fond, hein, au 19e siècle. Bon, c'est encore vivant maintenant, mais quand les apparitions de Fatima auront lieu, on sera déjà dans le stade de communisme, de socialisme mondial, de mondialisme d'aujourd'hui que nous savons. Donc le scapulaire devient le symbole de notre protection dans cette lutte contre le laïcisme, naturalisme ambiant. Alors tout ça, c'est en fait déjà juste le vêtement en général. Le scapulaire en particulier a des richesses encore plus, on peut le développer encore plus. Déjà, c'est un habit religieux. Donc, au départ, c'est l'habit religieux que portent les religieux. Donc ça évoque les vertus religieuses. De pauvreté, d'obéissance, de chasteté, de modestie, d'humilité. Et le scapulaire doit être en laine, ce qui évoque la docilité du brebis, du mouton. En tout cas, le scapulaire de Mont Carmel est marron, ce qui évoque la terre, l'humilité, le travail laborieux, donc notre devoir d'État. D'avoir les pieds sur la terre. Il est sur le cœur et sur les épaules, donc ici et là. Donc ça représente un peu cette croix, notre fardeau à porter tous les jours avec amour, de notre devoir d'État. Il évoque aussi un peu notre baptême, parce qu'à notre baptême, on était loin ici et là, par les saints huiles. Et justement, pendant cette cérémonie aussi, faisait allusion à la lutte que faisaient les gladiateurs, parce qu'eux aussi, ils se moignaient de l'huile sur le corps avant de descendre dans l'arène. Et à l'origine, il faut savoir, les scapulaires existaient avant que la Sainte Vierge les ait donnés comme ça à Saint-Simon-Stock et au Pionnier Réginal, mais donc ça existait avant quand même. Et ça servait à quoi? Les bénédictins en avaient, c'était des tabliers de travail. En fait, ça servait quand on cueillait des fruits ou quand on devait ramasser des choses, on les mettait dedans et on portait des choses comme ça. Donc ça symbolise aussi notre travail de tous les jours et puis surtout de cueillir toutes les mérites et les grâces de chaque action de notre journée, grâce à la Sainte Vierge. C'est grâce à, en faisant tout pour Marie, c'est comme si nous cueillons à chaque instant, chaque fois que nous faisons quelque chose pour la Sainte Vierge, on ramasse voilà, un trésor de grâce et de mérite. Voilà. Je voulais finir quelques minutes avant pour pouvoir vous raconter normalement quelques histoires. Donc, pour conclure, c'est un sacramental efficace, d'autant plus efficace qu'on médite sur sa richesse, sur sa riche signification. Donc maintenant, j'espère que en portant le scapulaire, vous allez penser à au moins quelques-unes de ces choses qui vont vous aider à mieux porter le scapulaire. C'est un appel à Marie pour son aide dans la lutte contre les blessures du péché originel et l'influence du monde. Donc, c'est une prière. C'est pour ça que parfois on objecte que c'est hypocrite, je ne peux pas le porter parce que pour l'instant, j'ai fait un peu n'importe quoi avec ma vie. Ça serait hypocrite. Mais non, est-ce que c'est hypocrite de dire à la Sainte Vierge, j'ai besoin de votre aide? Qu'on soit pécheur ou grand saint, nous pouvons tous dire ça, sans hypocrisie. C'est une prière de demande d'aide. C'est pas une sorte de médaille de récompense. Alors, donc, c'est une protection, non, pardon, une protestation aussi de notre appartenance à la Sainte Vierge. Un rappel des vertus à exercer, puis des sacrifices et des mérites à ne pas perdre. Voilà. Alors, je voulais juste finir avec quelques. Donc, justement, par rapport à cette idée-là, donc, le fait de se dire, bon, je ne suis pas encore prêt à porter le scapulaire. Moi, j'ai connu quelqu'un. C'était aux États-Unis, il y a très longtemps, un jeune homme qui portait le scapulaire. Mais sa vie n'était pas tout à fait ça. Hein. C'était pas vraiment une grande chrétienne. Et en fait, il cherchait de la drogue, une fois. Il ne trouvait pas. Et alors, il m'a raconté après. Hein. Il dit c'est bizarre, parce qu'en plus, il était là où on pouvait le trouver très facilement. Et il s'est dit, mais il y a un problème. Il dit, je sais ce qui bloque. Il enlève son scapulaire. Comme ça, il trouve de la drogue. Ce jour-là, il était encore assez faible. Il a fait de la drogue ce jour-là. Mais ça l'a tellement frappé. Bon, il a remis le scapulaire après. Alors, je ne sais pas combien de chutes il y avait après, hein, mais c'était certainement long. Hein, mais il a porté le scapulaire et il a quand même changé de vie. Hein. Il a vraiment beaucoup changé sa vie. Une autre histoire, et on va finir avec ça. C'est un missionnaire en Australie, donc un missionnaire catholique. En Australie, vous savez, en Australie, c'est comme les États-Unis. Il y a des distances qui dépassent l'imagination. On peut voir des quelque part, c'est 1000 km à travers la brousse. Surtout à cette époque-là, c'était au 19e siècle. Et donc, un jour, en fait, je ne sais plus les raisons exactes, mais il devait aller très très loin dans une autre province. Quelque chose comme 1000 km pour voir une dame, donc une dame qui était une grande bienfaitrice, donc il voulait quand même marquer la chose, aller la voir, et donc il fait le voyage plusieurs jours, il arrive et elle n'est pas là. Alors là aussi, je ne sais plus les détails pourquoi elle n'était pas là, mais il arrive, il n'a rien à faire, il est là et il ne peut pas le voir, et il se dit, mais. Mince, alors j'ai fait tout ça pour rien, c'est pas possible. Donc en fait, il cherche un peu des gens, il trouve un bûcheron irlandais qui était en train de travailler. Et il dit, il parle un peu avec lui, vous êtes irlandais, vous êtes catholique, voulez-vous confesser? Il dit, non, monsieur, j'ai pas pratiqué depuis 20 ans, j'ai pas besoin de ça. Il dit, si, vous allez vous confesser, j'ai pas fait 1000 km pour rien, mettez-vous à genoux et confessez-vous. Et donc il a obéi, il se confesse, et après il dit, bon, effectivement mon père, merci parce que j'avais vraiment besoin de ça, je suis très content, et il lui montre son scapulaire. Il dit, moi j'ai porté ce scapulaire, même si je pratiquais plus, j'avais promis, je sais pas, il avait promis à sa maman, je sais pas quoi, mais il portait ça. Et elle dit, bah, tant mieux, c'est bien, au moins mon voyage n'était pas en vain. Il s'éloigne et puis il entend un bruit d'arbre qui craque et qui tombe et qui écrase le bûcheron Redmore, là, alors qu'il venait de se confesser. En fait, comme quoi la Sainte Vierge elle tient ses promesses quand même. Et ce prêtre ne devait même pas être là. Donc, voilà. Donc, il y aura tellement de choses à faire. Si jamais un jour après une messe de dimanche, vous allez poser des questions, il y a beaucoup d'autres choses que je pourrais rajouter, mais là, c'est l'heure et on va aller au vapeur.